Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Turbulence à haut risque sur la scène politique allemande. Les négociations pour former un gouvernement de coalition ont échoué et les semaines et les mois qui viennent s'annoncent agités. Tous les scénarios sont possibles, y compris un départ d'Angela Merkel. Pour les citoyens allemands qui ont voté en septembre, c'est la consternation. Les milieux économiques dénoncent l'irresponsabilité des politiques. À Berlin, Julien Méchoussi.
Du poison pour l'économie, voilà comment Hans-Peter Wollseifer, le puissant président de la Fédération des artisans, a qualifié l'échec des négociations. Ce dernier allant même jusqu'à remettre en question la capacité de fonctionnement du système politique allemand. Cette réaction résume parfaitement l'humeur des décideurs économiques du pays, eux qui avaient salué la perspective d'une coalition favorable à une économie libérale. Car c'est désormais une longue phase d'incertitude qui s'ouvre, comme le souligne la Chambre de commerce et d'industrie. Son président Eric Schweitzer parle d'occasion manqué pour dépasser les frontières idéologiques et trouver des solutions adaptées aux défis du pays. Et les regards se sont très vite tournés vers la bourse de Francfort où le retour des libéraux au pouvoir était très attendu. De nombreux experts regrettent que ce soit justement le parti libéral, le FDP, qui ait fait échouer les négociations. Holger Binkmann, président de la Fédération du commerce extérieur, met de son côté tous les partis réunis autour de la table dans le même sac. Des partis dont il juge le comportement irresponsable avec des conséquences au goût très amer pour l'économie du pays.
Un État narcotrafiquant au cœur de l'Europe, c'est l'Albanie. Ce petit pays des Balkans est devenu le premier pays producteur européen de cannabis. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre socialiste Edi Rama qui est accusé d'avoir profité de ce trafic à des fins politiques. Reportage à Tirana de Simon Rico.
Les affaires autour du cannabis empoisonnent la vie politique albanaise depuis plus d'un an. Mais la pression s'est encore accrue sur le gouvernement d'Edi Rama mi-octobre, après l'arrestation en Sicile d'un proche de l'ancien ministre de l'Intérieur. Selon la police italienne, Saïmir Tahiri aurait personnellement aidé son cousin Moïsi Abilai à mener un vaste trafic d'armes et de drogue. Le parquet albanais réclame son arrestation, mais le parti socialiste refuse pour le moment de lever l'immunité parlementaire de son député. Le journaliste Armand Shkulaku dirige la télévision indépendante Clan. Il a suivi l'enquête.
Ce n'est pas seulement Tahiri, il y a des députés, il y a des maires qui ont des problèmes avec la loi. Il y a beaucoup de petits et grands criminels qui ont des liens avec les politiciens, avec la police et tout ça. Donc c'est un processus, je pense, qui vont à la fin faire tomber
les
ramas.
Les derniers chiffres de la Guardia di Finanza, la police douanière italienne qui dispose depuis 20 ans d'une mission en Albanie, parlent d'eux-mêmes. En 2016, 753 000 plants de cannabis auraient été détruits contre 46 000 deux ans plus tôt. D'après les experts, les destructions toucheraient à peine 10% des surfaces cultivées, ce qui laisse imaginer l'ampleur qu'a pris le trafic de drogue dans ce petit pays d'à peine 3 millions d'âmes. Selon les estimations, le cannabis aurait généré 2 à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, entre le quart et le tiers du PIB albanais. Dans les campagnes, les paysans ont massivement abandonné leurs terres, préférant travailler dans des plantations de cannabis où ils peuvent gagner environ 20 euros par jour, près de 3 fois plus que le salaire moyen du pays. En Albanie, la production de cannabis est une vieille histoire. Elle a commencé à la fin des années 90 et s'est longtemps concentrée dans le sud du pays, dans les montagnes qui entourent Lazarat, un village frondeur traditionnellement acquis au Parti démocratique. Mais après un très médiatique raid de la police au printemps 2014, la production s'est vite étendue à tout le pays. Largement battue aux dernières législatives, l'opposition de centre-droit s'époumonne aujourd'hui à dénoncer la mainmise du crime organisé sur l'État albanais, à commencer par Lulzim Bacha, le chef du Parti démocratique.
Through the Via le cannabis, c'est toute une infrastructure criminelle qui a vu le jour. Il y a des paysans qui sont quasiment réduits en esclavage, des hommes en armes surveillent les plantations et empêchent les autres agriculteurs de travailler leurs terres pour cultiver des produits légaux. La police corrompue obéit aveuglément et les politiciens reçoivent de l'argent en échange de leur protection pour la production et l'exportation. Et ils font la loi au lieu de faire face à la loi.
Malgré la multiplication des affaires affectant la majorité socialiste, les chancelleries occidentales ont longtemps préféré rester silencieuses pour ne pas affaiblir le gouvernement d'Edi Rama, perçu comme un garant de la stabilité régionale, notamment sur la question du Kosovo, principale source d'inquiétude dans les Balkans pour l'Union européenne et les États-Unis. Le journaliste Armand Shkulaku regrette cette curieuse posture des Occidentaux vis-à-vis de l'Albanie.
Je pense qu'ils ont tardé et ils continuent. Attardé, parce que dans les Balkans, ils ont choisi toujours de donner priorité à la stabilité aux dépens de la démocratie. Et l'Albanie, c'est pas un cas particulier. Vous connaissez peut-être le cas de Monténégro, le cas de Macédoine. Donc, c'est toujours une histoire qui se répète. Et on se souvient de nous seulement quand la crise pousse à la porte. C'est l'histoire même de 1997, que l'Albanie avait de gros problèmes avec la démocratie. À la fin, il y a eu 3000 morts dans une crise armée en Albanie.
Fin octobre, l'ambassadeur américain à Tirana a fini par hausser le ton. Donald Lou, réputé proche d'Edi Rama, a critiqué le manque de réaction des autorités, s'étonnant notamment qu'aucune arrestation n'ait visé les gros poissons de ce narcotrafic qui prend des proportions industrielles. Peu après, le FBI a annoncé la formation prochaine d'une nouvelle force spéciale chargée de combattre le crime organisé en Albanie. Il faut dire que selon les spécialistes, les gangs albanais font désormais jeu égal avec les mafias italiennes.
Média.
Chaque année, l'association Reporters sans frontières récompense des journalistes qui défendent contre vents et tempêtes la liberté d'informer. Le journaliste polonais Tomasz Piatek du quotidien Gazeta Wyborcza est de cela. Il est poursuivi dans son pays devant un tribunal militaire pour avoir publié un livre sur le ministre de la Défense, Macierewicz et ses secrets. C'est le nom de cette vaste enquête qui met au grand jour les liens entre Varsovie et Moscou sur le terrain de la défense. On écoute Tomasz Piatek.
J'ai mis au jour une réalité très dangereuse pour la Pologne. Le ministre Antoni Macierewicz est en train de démanteler totalement l'armée polonaise. D'ailleurs, ça a été établi par des observateurs impartiaux qui ont rédigé des rapports officiels en ce sens. Il a par exemple renoncé à vous acheter des sous-marins, à vous les Français. Ce qui veut dire qu'en cas d'attaque russe, nous ne pourrons défendre nos côtes qu'avec des sous-marins vieux de 50 ans. Ce sont de véritables pièces de musée. Le ministère mène officiellement la politique la plus anti-russe de l'Occident, mais en réalité, il est entouré de gens qui ont des liens étroits avec la mafia et les services secrets russes, parfois depuis plus de 10 ans.
Et pendant combien de temps avez-vous travaillé sur ce livre ?
Cette enquête minutieuse, je l'ai menée pendant 2 ans. J'ai passé des milliers d'heures à compiler des documents sur Internet, dans les archives polonaises. J'ai pu aussi avoir accès à des documents des services secrets polonais ou des registres commerciaux. C'est du véritable journalisme d'investigation, comme on n'en fait plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, les journalistes menaient l'enquête sur notre passé communiste, mais personne n'a encore fouillé du côté de ce gouvernement de droite. Voilà pourquoi je suis tellement détesté en Pologne aujourd'hui.
Oui, justement, alors quelle a été la réaction de vos collègues dans les médias ?
Mes confrères m'ont vraiment apporté beaucoup de soutien. Ceux de Gazeta Wyborcza, c'est le plus grand journal du pays, mais aussi ceux de Politica Weekly, très connus aussi chez nous. Et enfin, les journalistes de petites chaînes locales de télévision. Les grandes chaînes nationales, elles, ne me soutiennent qu'à moitié. Si elles concèdent que c'est un très bon livre, elles ont des scrupules à parler du contenu. En revanche, la presse pro-gouvernementale mène bien sûr une véritable campagne de dénigrement. Elle prétend notamment que je vis à Prochkou, une ville réputée mafieuse, alors que je n'y ai jamais mis les pieds. On m'attaque aussi sur le fait que je serais alcoolique et drogué, alors que je suis sevré depuis des années. Et puis, il y a aussi mes convictions religieuses. Je suis calviniste et non catholique. Je serais donc logiquement un ennemi de l'Église catholique. Il y a aussi bien d'autres mensonges proférés à propos de mon livre.
Depuis 2015, le gouvernement a essayé d'imposer sa loi sur les médias publics. Où en est-on aujourd'hui ?
Il n'y a plus de presse publique en Pologne. D'ailleurs, elle a été rebaptisée presse nationale. Ils ont créé un organe anticonstitutionnel contrôlé par le parti au pouvoir. Le gouvernement et le PiS contrôlent la presse. C'est d'ailleurs une presse de parti.
Et maintenant qu'ils contrôlent les médias nationaux, vous avez l'impression que le gouvernement s'attaque aux médias privés ?
They are attacking private media all the time.
Oui, ils s'en prennent tout le temps aux médias privés. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris que les chaînes de télévision aient peur de parler des liens entre le tout-puissant ministre de la Défense et les Russes. Ainsi, TVN, la plus importante des chaînes, est poursuivie par la justice pour des milliards de zlotys de taxes non payées, soi-disant. C'est ce qui arrive aussi à mon journal. Poursuivis et intimidés depuis le début. Ils ont déjà coupé toute la publicité. Ils ont enfin interdit à tous les ministères, à toutes les administrations de s'abonner à Gazeta Wyborcza. Le parti au pouvoir prépare d'ailleurs une nouvelle loi anti-européenne, celle-là, pour interdire aux groupes étrangers ou à tout investisseur occidental de posséder des médias polonais. Parce qu'il sait bien que des investisseurs étrangers seraient beaucoup moins sensibles à des pressions politiques.
L'année 2017 a été déclarée année de l'écologie par l'État en Russie, mais les combats ne manquent pas. C'est le cas de la région de Voronej, située à 500 km au sud de Moscou. Ses habitants dénoncent l'exploitation des gisements de nickel, catastrophique pour l'environnement. Reportage sur place d'Étienne Bouche.
La région de Voronej, c'est celle des terres noires. Le sol y est fertile et donc propice à l'agriculture. À Novorapiorsk, les habitants sont très attachés à leur cadre de vie. Il suffit de sortir de cette petite commune rurale pour se retrouver dans la forêt. Lilia Ishkova, une habitante de Novorapiorsk, nous l'a fait découvrir.
Nous sommes ici dans la réserve naturelle de la Ropior. Notre réserve est célèbre du fait qu'elle abrite un animal rare, le décement de Russie, une espèce de taupe, mais aussi d'autres espèces menacées de la faune et de la flore. Et puis ici coule la rivière Ropior, qui est considérée comme l'une des plus pures d'Europe. C'est à une quinzaine de kilomètres qu'on a décidé d'exploiter des gisements de nickel.
Au bord de cet affluent du Don, Lilia nous explique son engagement contre un projet devenu la préoccupation principale des habitants de la région. Les deux gisements ont été découverts dans les années 70. À l'époque, le pouvoir soviétique décide de ne pas y toucher. Aujourd'hui, la compagnie minière russe UGMK prévoit de les exploiter afin de vendre les métaux à l'étranger. La décision a été rendue publique fin 2011. Elle a suscité ces dernières années des manifestations d'une rare ampleur dans la province russe. Retour à Voronej, la capitale régionale. Dans cette ville d'un million d'habitants, les militants anti-nickel se sont organisés. Ignorés par les médias locaux, ils se rassemblent chaque mercredi pour se faire entendre. Ils font ce qu'on appelle un piquet. Ils se tiennent debout avec des pancartes. Ce mercredi, ils sont une vingtaine.
J'ai des enfants, je suis grand-mère et je m'inquiète pour eux. Nous nous rassemblons ici pour faire connaître le projet au plus grand nombre, car malheureusement, dans nos médias, à la télévision, il n'y a pas une once de vérité.
Au nom de quoi fait-on cela ? Tout cela, c'est pour quelques oligarques qui en tireront de gros bénéfices. Nous, nous respirons cet air, nous buvons cette eau, et cela aura des conséquences sur notre santé.
Dans la région, beaucoup ont en tête l'image de Norilsk. Connue pour sa situation écologique désastreuse, cette ville minière du Grand Nord est devenue un cas d'école. La compagnie UGMK a beau mettre en avant ses techniques d'extraction modernes, la population redoute des dommages écologiques irréparables. Des dommages qui menaceraient l'agriculture dans une région déjà endettée. Depuis les premiers travaux de prospection géologique, des militants affirment qu'ils constatent déjà des effets sur l'eau puisée près de Novorapiorsk. Dans la région, le front anti-nickel peut compter sur le soutien des Cosaques. À l'époque tsariste, ils assuraient l'ordre aux frontières sud de l'Empire. Sergei Biryukov est l'un d'eux. Il critique le manque de transparence de la compagnie.
Quand ils sont arrivés sur notre terre, ils ont bouclé la zone qui du coup n'était plus accessible à personne. Des militants sont venus, ils ont tenté d'établir un contact et on ne les a pas laissés entrer afin qu'ils puissent effectuer leur relevé, alors qu'ils voulaient vérifier la situation écologique sur place, voir ce qu'il se passait. La clôture a été installée illégalement. Selon moi, ils n'ont tout simplement rien à répondre aux questions que se pose la population.
Sur place, la direction de Russie Unie décline les demandes d'interview. Le parti qui domine la politique régionale ne souhaite pas s'exprimer sur le principal sujet de préoccupation de la population. Pour Andrei Soukhatchov, membre du Parti communiste, il n'y a rien à attendre des autorités régionales.
Le pouvoir local tel qu'il existe est seulement chargé de régler les problèmes d'ordre communal. Le reste ne dépend pas de lui. Gouverner, c'est avoir des ressources et le pouvoir de décision. Si vous n'avez ni ressources ni pouvoir, comment peut-on bien vous appeler ?
Afin de calmer la contestation, un conseil civil en charge de la question a été créé. Les militants anti-nickel accusent le pouvoir d'avoir peu à peu remplacé les contestataires par des lobbyistes. Professeure de droit à l'université de Voronej, Natalia Boutousova veut croire à une solution politique.
La voie constitutionnelle donne la possibilité d'annuler cette décision. Le président lui-même peut le faire, il en a les pouvoirs. Ça apaiserait beaucoup les tensions au sein de la population et permettrait d'éviter une catastrophe écologique qui semble inéluctable.
C'est peut-être une petite victoire de la mobilisation. La mise en route du projet a été retardée. Mais les militants sont loin d'être optimistes. En Russie, les intérêts économiques des grands hommes d'affaires priment bien souvent sur l'intérêt général. Très actif dans la contestation, le militant Konstantin Roubachin a été contraint de quitter la Russie. Il vit aujourd'hui en Lituanie. Depuis plusieurs années, il enquête sur la société UGMK et son propriétaire. Il dénonce montage financier et accumulation de profits à l'étranger.
Aujourd'hui, sous le ciel de brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Elisabeth, épouse du lieutenant de la Royal Navy Philip Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créé depuis hier, duc d'Édimbourg.
Célébration royale aujourd'hui au Royaume-Uni où la reine Elisabeth II, 91 ans, toujours en fonction, et le prince Philippe, 96 ans, à la retraite depuis cet été, fêtent leurs 70 ans de mariage. L'occasion de regarder comment fonctionne ce duo sur la scène publique à Londres, Marie Billon.
Who do you sponge off? Vous vivez au crochet de qui? Demande un prince à un groupe de femmes travaillant pour une association. Ça ressemble au début d'une blague de mauvais goût. Ce n'est que l'une des nombreuses gaffes du prince Philippe, l'époux de la reine. Une remarque qui aurait valu une condamnation pour sexisme à n'importe quel autre personnage public. Mais non, le duc d'Édimbourg a simplement réussi à épater la galerie une nouvelle fois. Sans doute parce qu'il vit lui-même au crochet de son épouse. Lorsqu'Elisabeth II a hérité de la couronne en 1952, il a dû arrêter de travailler, abandonner sa carrière militaire, et ça n'a pas été facile. Sa famille l'avait poussé dans les bras de l'héritière en pensant créer la dynastie Mountbatten, mais son épouse est devenue reine et il a dû abandonner son nom de famille, il n'a pas pu le donner à ses enfants, pas de dynastie Mountbatten donc. Mais après des ajustements difficiles romancés dans la série Netflix The Crown, le prince Philippe est devenu le bouffon de la reine, pour citer un historien qui a rencontré plusieurs fois le couple. Lors des garden parties de Buckingham Palace par exemple, on dirait une chorégraphie. Elle avance, sourire aux lèvres, un peu courbée comme pour mieux entendre ce que son interlocuteur murmure et passe poliment à l'invité suivant. Le prince Philippe, lui, droit comme un piqué, un air bourru sur le visage, marche quelques pas derrière, comme le veut le protocole, et n'hésite pas à poser des questions plus inquisitrices que la reine. Les conversations avec le duc d'Édimbourg peuvent être mémorables, dit un historien. En revanche, je ne connais personne qui se souvienne de cette discussion avec la reine, ajoute-t-il. C'est un duo bien rodé, qui marche. Après 70 ans de mariage, on aurait du mal à les dire amoureux comme au premier jour, mais d'après les spécialistes de la famille royale, il est son roc, un véritable soutien. Même les gaffes de son époux rendent service à sa majesté. Au moins, le couple royal est divertissant.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.